France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, j'accueille Philippe Meyer, qui fut longtemps, entre autres, une des grandes voix de la chanson sur France Inter et qui raconte aujourd'hui Ma Radio, histoire amoureuse au théâtre du Lucernaire. Une occasion de revenir sur ce merveilleux instrument qu'on appelait autrefois la TSF et qui nous rassemble chaque samedi. Philippe Meyer et ses refrains favoris dans quelques minutes. Mais puisque le vilain mois de mai nous réserve aujourd'hui ses rafales, commençons par chanter le joli mois de mai, ses fleurs et ses amours.
Heute hab ich meinen schönsten Tag, mein bist du, was immer kommen mag. Nur mit dir alle Freude, auf der Welt nur wir beide. Erstes Glück ohne Maß, oh wie wunderschön, oh wie schön ist das. Unsere Herzen keine Macht mehr trennt, lass uns fliehen, wo uns niemand kennt, wo sonst nichts als Wind immer ist, du mein alles bist. Es sehnt sich jedes Herz nach Seligkeit, jedoch das Meer und Glück sind weit, so weit, so endlos weit. O komm, es hat der Frühling auch nur einen Mai. O komm, es geht der liebe Traum gar schnell vorbei. O komm, lass mich küssen deinen völlig süßen Mund, ohne dass ich denk. O komm, als Blume sollst du unter Blumen blühen. O komm, vertrau den Sternen, die uns gnädig glühen. Dein Herz soll nicht entsagen, liebe nur, dann wirst du.
Aujourd'hui, c'est mon plus beau jour. Oh, viens, c'est le printemps, c'est le mois de mai. Un extrait du Tsarevitch, merveilleuse opérette de Franz Lehár qui date de 1925 et qui était chantée ici par monsieur Nicolas Guéda. La Gaieté Parisienne, Offenbach, revue par Manuel Rosenthal et dirigée par ce dernier. Une musique de fête, s'il en est la fête, je vous le rappelle, eh bien ce sera aussi le 21 mai à Radio France, au Studio 104, pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Grande émission publique avec Marcel Amont, Marie-Paul Bell, Hervé Villard, Jean-Claude Petit, Nicole Broissin, Marie-Thérèse Aurin, Hugues de Courson, Jean-François Kahn et d'autres encore. Vous êtes tous les bienvenus le 21 mai. Si vous voulez réserver des places, c'est sur le site maisondelaradio.fr. Vous allez dans les émissions en public et vous trouverez bien sûr la grande soirée d'Étonnez-moi Benoît où vous êtes tous bienvenus.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais toujours à propos de radio, eh bien nous avons rendez-vous ce matin avec un grand monsieur de la radio avec qui nous allons justement parler de la radio parce que c'est le sujet de son dernier spectacle. Il a abordé d'ailleurs, il faut le dire, aux différents micros de cette maison à peu près tous les sujets avec une prédilection pour la chanson. J'ai la joie d'accueillir ce matin Philippe Meyer.
L'autre jour, mademoiselle Hortense, depuis longtemps j'y faisais la cour. Elle me dit, maman est en vacances, venez donc demain me dire bonjour. Je vous ferai voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo, c'est épatant, oui, enfin bref. C'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF. Ah ben mon dieu, alors... J'arrive, elle me montre une boîte, elle me dit ça va causer. Tournez donc le bouton à droite, ça va bien vous amuser. Moi pendant ce temps-là, je vais aller faire à la cuisine. Une tasse de café, ça vous plaît-il? J'y réponds oui. Je tourne le petit bouton et voilà que j'entends une voix divine qui se met à chanter, c'est toi que j'aime, oh mon chéri. Oh ben ça c'est une aventure alors. Je me dis ça c'est une affaire, c'est pour moi qu'elle a le béguin. Seulement comment que je vais faire pour la sortir du machin? Elle continue, je te ferai voir de belles choses. Elle était maline pour m'exciter, elle soupirait. Je connais un pays où le ciel est teinté de rose. Je dis je veux bien y aller pour ces trucs-là, je suis toujours prêt. Ah, tu parles, dis alors. Elle parlait toujours encore, je pensais qu'elle s'appête qu'elle a. Je dis je le sais bien que tu m'adores, il y a 2 heures que tu me dis que ça. Sors un peu de là-dedans, si tu veux qu'enfin on se connaisse. Tu m'aimes, j'ai compris, et moi aussi je veux bien t'aimer. Mais comment ferons-nous si tu ne me donnes pas ton adresse? Que tu veux pas sortir et que moi je ne peux pas rentrer. Non mais enfin c'est vrai ça, tout de même quoi. Tout à coup le fourbi s'arrête, quelqu'un crie c'est terminé. Pensez si j'en faisais une tête, j'avais même pas commencé. Et je ronchonnais la TSF, c'est bête tout de même. Pour se moquer de vous, des tas de bonnes femmes se cachent là-dedans. Elles vous disent comme ça, viens mon chéri, c'est toi que j'aime. Et puis quand on croit qu'on va les tenir et foutre le camp, c'est sacré femme enfin. Heureusement, mademoiselle Hortense arrive avec son café. J'avais tellement d'éloquence qu'enfin elle m'a écouté. Elle me l'a donné, le truc de fourbi, le machin de l'ivresse. Les trésors d'amour, moi je les ai eus comme j'ai voulu. Quant à la bonne femme, elle peut bien rester dans sa caisse. Elle peut raconter tout ce qu'elle voudra, je l'écouterai plus. Et voilà, non, mais alors quoi, comme la défaite.
Ouvrard, fils, amour et TSF en 1930. Bonjour Philippe Meyer.
Bonjour Benoît.
Ben oui, on disait qu'on faisait de la TSF à l'époque. Aujourd'hui, on dit qu'on fait de la radio.
Oui, on fait de la radio, la TSF. Oui, plus de gens savaient ce que ça voulait dire d'ailleurs à la fin de dire c'est téléphonie sans fil. Voilà. Et je me souviens d'une image d'archives dans laquelle on voit un vieil académicien, Marcel Prévost, qui déclare qu'en chevrotant, la TSF va abolir la notion d'absence. C'était extraordinairement intelligent. Et d'ailleurs, c'est exactement le sujet de la chanson qu'on vient d'entendre.
Qu'on vient d'entendre, voilà la TSF qui nous rassemble doublement, triplement aujourd'hui, parce qu'on est en train d'en faire. Et vous en faites aussi en ce moment sur scène un sujet d'une histoire d'amour, on peut dire, entre vous et la radio ou la TSF. On disait comment quand vous étiez encore tout petit?
On disait déjà la radio. Et on disait la radio, et puis la radio avait des perfectionnements, je veux dire techniques. Par exemple, l'appareil sur lequel j'écoutais la radio à la maison, gros appareil avec un œil vert qui se s'ouvre et qui se ferme,
quand même connu, c'est
l'œil de cyclope. Mais il avait aussi un lecteur de micro-sillon intégré, un pick-up. Oui, était à l'intérieur. Ouais. C'était une chose tout à fait unique et beaucoup de mes copains n'avaient pas ça chez eux. Donc, on pouvait se faire son intéressant. Et non, on disait la radio absolument et j'écoutais la radio et j'ai écrit et j'essaye d'interpréter sur scène une apologie de la radio.
une apologie de la radio, de l'art radiophonique,
oui,
on peut dire.
Aussi.
Voilà. Et de votre histoire en même temps avec la radio. C'est une histoire personnelle.
Hein. Et de mon histoire avec la radio, puisque j'ai longtemps été un auditeur fervent, curieux, à la recherche de stations. Mais il est vrai que jusqu'à la libération des ondes, jusqu'à la fin du monopole, il y avait assez peu de stations. Et celles qui on pouvait comprendre, si on comprenait la langue dans laquelle elles émettaient, étaient assez difficiles à recevoir.
Oui.
Mais c'est puis à un moment donné, je suis passé de l'autre côté, absolument par hasard, et sans avoir jamais prémédité la chose, et j'en fais toujours, et j'en suis encore assez surpris.
Et on va y revenir. À propos de postes de radio sur les vieilles TSF, il y avait des noms qui me fascinaient, comme Sautens, Hilversum, etc.
Hilversum, absolument. J'ai jamais réussi à attraper Hilversum, mais il y avait un nombre. C'est ça qui était étonnant, c'était qu'en effet, sur le cadran sur lequel courait l'aiguille, mue par une molette, et elle-même faisant bouger l'œil vert du cyclope dont je parlais tout à l'heure, il y avait une telle quantité de noms qu'on se disait, mais je vais bien finir par arriver à attraper quelque chose. On voyait bien que cet instrument servait à capter la rumeur du monde, comme on disait ici autrefois.
Alors en tout cas, vous êtes donc au Lucernaire pour cette série de représentations de Ma Radio Histoire Amoureuse, hein, pendant tout le mois de mai, du jeudi au dimanche.
Oui.
Et c'est un spectacle que vous donnez déjà d'ailleurs depuis quelques mois, avec beaucoup de succès.
Je le donnais que les dimanches et l'accueil du public a fait que le Lucernaire m'a demandé d'ajouter des dates. J'ai pas pu en ajouter autant qu'il le souhaitait, mais effectivement, l'accueil du public est bien agréable.
Voilà, et donc c'était pour moi l'occasion de vous retrouver ici, ça fait quelques années.
C'est un plaisir.
Qu'on ne s'est pas parlé. Mais maintenant, on était à peu près ensemble sur les ondes, donc c'était pas forcément facile pour s'écouter. Mais voilà, là, on est côte à côte. Et j'avais envie de vous demander aussi, Philippe Meyer, vous avez fait tant de choses, écrit des livres dans le domaine de la sociologie, etc. C'est quoi le fil conducteur de vos passions et de votre existence? Si vous demandez, c'est quoi votre métier?
Non, je sais pas très bien ce que c'est que mon métier. Je pense que le fil conducteur, c'est les rencontres, en réalité. C'est le refus et les rencontres, le refus d'un certain nombre de choses. Je voulais pas, par exemple, passer de concours. Je voulais pas être polytechnicien, ce qui était une idée de mon père, mais dont j'avais absolument pas les capacités. Je voulais pas non plus essayer d'être normalien littéraire. Je dis pas que j'y serais arrivé, je veux pas faire mon intéressant. Mais en tout cas, j'ai refusé d'aller en Hippocagne, comme j'avais refusé d'aller dans n'importe quelle classe qui prépare les concours. Après, je me suis dit, j'avais un cousin qui était prof de droit et que j'aimais beaucoup et qui était un homme plein d'intelligence, Pierre Catala, professeur il était agrégé de procédure civile. Bon, ben, moi, c'était pas mon affaire, mais je me suis dit, je vais aller m'inscrire en droit et je me suis passionné pour le droit public. Je voulais faire l'agrégation de droit public. Et puis, comme je m'ennuyais à faire du droit civil, je me suis aussi inscrit en sociologie. C'était à Nanterre en mai 68, j'avais 20 ans. Et du coup, la sociologie l'a emporté sur le droit. Et puis après,
On va y revenir.
Occasions.
Voilà. Alors, plus en détail, mais Philippe Meyer, on va remonter un petit peu justement votre histoire à travers aussi l'histoire de la radio.
Vos impôts, il ne vous viendrait jamais à l'idée de les payer ailleurs que chez le percepteur. Votre montre, vous la faites réparer chez l'horloger. Votre pain, vous l'achetez chez le boulanger. Eh bien, votre charcuterie, achetez-la donc chez le charcutier. À la charcuterie Lecomte, naturellement, qui ne vend que des produits de qualité, fabriqués dans un laboratoire des plus modernes. À la charcuterie Lecomte, qui s'est imposée par ses produits fins et savoureux, par ses produits frais et bien présentés. Charcuterie Lecomte, 58 rue Saint-Sauveur, à Péronne.
Et la musique est signée Monty Zouzou dans cette publicité musicale. On n'a pas la date, mais c'est bien la charcuterie Lecomte à Péronne. Je ne connais pas Péronne d'ailleurs, mais
moi non plus.
Non plus
peut-être elle existe encore et vous allez vous retrouver devant le CSA pour avoir fait la publicité d'une charcuterie qui existe. Si elle existe, on la salue, je pense.
Mais bon, là encore, ne vous vieillissons pas, cher Philippe Meyer.
C'est
pas les publicités de votre enfance, c'est bien avant.
Oui,
mais vous aimez toutes ces publicités musicales.
Écoutez, oui, je trouve c'est formidable. Plusieurs compagnies de disques ont eu l'idée de les rassemblés. Il y en a de toutes sortes, chantées par des gens totalement inconnus ou proclamées, comme elle vient de l'être, par des gens totalement inconnus ou par des gens très connus, par Raymond Souplex, par les frères Jacques, par Charles Trenet
même,
qui ont beaucoup qui ont enregistré des publicités. Et je trouve, surtout aujourd'hui où la consommation est devenue une activité névrotique d'accumulation de choses dont on sait absolument pas ce qu'on va faire, cette époque-là, c'est une époque où la consommation est quelque chose qui fait envie et qui donne en plus l'impression qu'on va pouvoir avoir une vie meilleure que celle qu'on avait avant ou que vos prédécesseurs avaient avant. Et je trouve que il y a une gaieté. Aujourd'hui, la publicité, elle vous snob. Elle essaye de vous faire prendre pour plus important, plus intéressant, plus riche que vous n'êtes. À l'époque, la publicité, elle vous raconte que vous pouvez avoir un peu plus que ce que vous avez jusqu'à présent, ou alors elle vous fait le coup, là, qu'on vient d'entendre, de cette solennité qu'elle met autour d'un acte finalement assez simple, qui consiste à aller acheter un saucisson.
Oui, c'est ça. En tout cas, pour ce qui est des émissions de radio de votre enfance, Philippe Meyer, je crois qu'il y en a une qui est très directement liée à notre chaîne, qui a beaucoup compté pour vous, c'était la Tribune des Critiques de Disques.
La Tribune des Critiques de Disques, c'est la première émission, non pas que j'ai écoutée, mais que j'ai retenue. J'étais tout jeune, j'avais 8-9 ans. Ouais. Je promenais l'aiguille du poste, et puis un jour ça s'arrête, et j'ai entendu la Tribune des Critiques de Disques. Je comprenais rien, évidemment, c'est des musicologues très distingués qui participaient à cette émission, mais j'aimais leur voix.
Antoine Goléa,
Armand Panigel, Jacques Bourgeois, Jean Roy, bien sûr. Ils m'ont marqué durablement et je comprenais qu'ils se disputaient, mais je trouvais qu'ils avaient une façon de se disputer. C'était pas comme dans la cour de récréation. C'était civilisé. C'était, ils s'écoutaient, ils reprenaient, ils continuaient. On sentait que c'était la dispute elle-même qui était un plaisir. Et en plus, il y a une chose qui m'a rempli à la fois de joie et d'orgueil. C'était que si je ne comprenais rien de ce qu'ils racontaient, j'entendais les différences entre les versions qu'ils proposaient. Et ça, déjà, le fait qu'on puisse faire des choses aussi différentes à partir d'un même matériau, si je puis dire, ça me réjouissait. Mais en même temps, ça me donnait vraiment l'impression qu'on a quand on est enfant et qu'on trouve l'œuf de Pâques qui est planqué dans le jardin. Ça, c'est pour moi l'émission fondatrice de mon amour de la radio.
Et de la musique.
Et de la musique aussi. Quoique dans ma famille, on faisait beaucoup de musique.
Ah oui, vos parents
Non, mais à côté de mes parents, oui, j'avais une tante qui travaillait avec Elisabeth Brasseur. On connaissait toute la bande, Nadia Boulanger, tout ça. Donc c'était, oui.
Mais il vous arrivait quand même, devenu adolescent, de tourner le bouton et d'aller par exemple sur Luxembourg avec son fameux grand programmateur qui était Pierre Liégel.
Ah, Pierre Liégel est un personnage qui mériterait vraiment, je ne sais pas, une statue quelque part au musée de la radio, parce que c'était quelqu'un qui avait une espèce d'intelligence de ce qu'il fallait proposer, de la manière de le proposer, qui normalement aurait dû faire aimer la musique à la France entière, s'il y avait eu de l'autre côté, je veux dire du côté des écoles, quelque chose qui est la même inspiration plutôt que rien, ce qui était le cas le plus fréquent, ou bien les fameux pipeaux sur lesquels il fallait jouer J'ai du bon tabac ou quelque chose de ce genre. Oui, Pierre Liégel était un personnage très important.
On en avait parlé d'ailleurs ici même avec Pierre Belmar, qui devait être son beau-frère,
c'était son beau-frère, absolument.
Et sa fille, bien sûr.
Et sa fille Catherine Liégel, absolument, voilà. Qui a un culte pour son père. C'est son père qui l'a poussé à être actrice.
À être actrice.
Il a même quasiment forcé, je crois.
Il était aussi producteur de disques. Enfin voilà,
oui,
c'est un personnage de cette histoire de la radio que vous nous racontez donc en ce moment avec d'autres souvenirs d'enfance. J'en cite un encore, tiens, par exemple, un grand musicien qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça, André Pop, et le générique des Maîtres du Mystère. Ah.
Alors le générique des Maîtres du Mystère, je dis dans le spectacle que c'est une scie musicale. Ouais. En réalité, c'est pas une scie musicale, c'est un instrument dont j'ai déjà oublié le nom, qui avait été inventé par un Russe, devenu soviétique parce que la révolution avait eu lieu, et Lénine ayant entendu cet instrument électronique qu'on joue sans le toucher, on le joue juste en bougeant les mains.
Une sorte d'onde Martenot
C'est
soviétique.
Des ondes Martenot sans le fil qu'il faut tirer, et cet instrument n'a pas eu le succès que Lénine espérait, mais l'inventeur a été abondamment soutenu par le régime communiste.
Voilà, c'est la thérémine, je crois.
La thérémine, absolument. Voilà. Oh là, Benoît, je ne sais pas par où on peut vous surprendre. La thérémine, absolument. C'est un nom de médicament, mais c'est un instrument. Alors, et je signale que sur YouTube, on peut voir des gens, notamment une jolie jeune femme, qui joue de la thérémine.
Voilà. Alors, en tout cas, Philippe Meyer, on sait que vous êtes un homme qui vous passionnait aussi pour la société, pour la politique. Vous avez l'image plutôt de quelqu'un de modéré, on dirait presque un centriste par certains côtés. Or, vous avez quand même eu une jeunesse, quand on lit votre bio, d'étudiant à Nanterre, se lançant dans la sociologie, etc., qu'aurait pu faire de vous aussi bien un leader de l'extrême gauche à l'époque.
Pas, non. J'ai pas un tempérament extrémiste.
Vous avez même conduit un comité de grève.
Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre chose. J'ai été, en effet, le président du premier comité de grève de Nanterre en novembre 67, ouais. Mais qui était un comité réformiste, c'est-à-dire que nous
déjà.
Absolument, je suis un bourgeois éclairé depuis le ventre de ma mère.
Ah bon, d'accord.
Et donc il s'agissait de montrer l'absurdité de la réforme universitaire qui venait d'être mise en place. Il s'agissait de faire en sorte que l'université de Nanterre ait simplement les moyens qu'on travaille. Et en effet, la situation était telle que cette grève a été immédiatement suivie. Alors là, après, je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres sur le fonctionnement
gauche.
De l'éducation. Non, j'ai toujours été, je suis politiquement ce qu'on appelle un rocardien, pas seulement parce que j'ai rencontré Michel Rocard quand j'ai eu 14 ans et qu'on est resté amis jusqu'à sa mort, mais parce que l'homme et la pensée, si je puis dire, me convenaient absolument.
Enfin, vous écoutiez quand même des chanteurs engagés, comme Pete Seeger, par exemple.
Ah oui.
Ah oui. Vous l'avez découvert comment, lui?
Comment est-ce que j'ai découvert Pete Seeger? Je pense par la maison d'édition qui était Champ du Monde.
Ouais.
Et j'avais une espèce de dilection pour Champ du Monde qui
proche
tenait...
Proche du Parti communiste.
Oh, bah, possédé par le Parti communiste. Tenait à Colette Mani.
Ouais.
Quand j'ai découvert Colette Mani, j'ai découvert Champ du Monde. Et puis aussi, Champ du Monde éditait beaucoup de chansons. Il faut reconnaître, les chansons militantes, c'est comme les chansons de corps de garde. Les paroles sont souvent un peu faiblardes, mais souvent, les airs sont magnifiques.
Ah, oui.
Et donc, ça vaut la peine d'être écouté.
I've traveled around this country from shore to shining shore. It really made me wonder the things I heard and saw. I saw the weary farmer a plowing sod and loam. I heard the auction hammer just a knocking down his home. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver that the farmer sweated for. I've seen the seamen standing idly by the shore, and I heard their bosses saying, got no work for you no more. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver that the seamen sweated for. I've seen the weary miner scrubbing coal dust from his back, and I've heard his children crying, got no coal to heat the shack. But the banks are made of marble with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver that the miner sweated for. I've seen my brothers working throughout this mighty land. I've prayed we'd get together and together make a stand. Then we might own those banks of marble with a guard at every door, and we would share those vaults of silver that we have sweated for.
Et oui, les banques sont de marbre et le peuple souffre. C'est en 1958, Pete Seeger, grand chanteur engagé, alors s'il en est, mais aussi passionné d'ailleurs de chansons traditionnelles américaines.
Hein, qu'il est oui, c'est ça qui a fait d'ailleurs son premier public, hein, c'est sa connaissance et puis ouais. ses interprétations, cette voix si particulière qui lui ont constitué un public. Et c'est à ce public ensuite qu'il a proposé des chansons comme celle qu'on vient d'entendre, où il passe en revue toutes les professions qui ont à souffrir de l'attitude des banques, alors que c'est leur travail qui a alimenté les réserves des banques en question.
Voilà, alors l'Amérique du Nord, elle a beaucoup compté aussi dans votre formation, on peut dire, Philippe Meyer, non pas les États-Unis, mais le Québec, où vous êtes parti après vos études et où vous avez passé un certain temps.
Oui, là aussi, par hasard...
Vous avez consacré un livre.
Oui, c'était par hasard, c'est parce que j'en pouvais plus après mes 68. J'avais fait mes 68 avec Paul Ricoeur, toujours voilà. aussi réformiste.
Au centre.
C'est vous dire que nous avions beaucoup pesé sur les événements. J'en pouvais plus. Le général de Gaulle était allé l'année précédente au Québec. Il avait fait créer un office franco-québécois pour la jeunesse. J'étais éducateur dans un club de prévention de la délinquance juvénile. J'ai demandé une bourse, je l'ai eue. J'avais pas plus d'envie que ça d'aller au Québec. J'avais à peine, je savais pas grand chose. Si, j'avais tous les préjugés que les Français ont sur le Québec. Ouais. Mais bon, pour changer d'air sans avoir à dépenser trop d'argent, donc avec une bourse, je crois que je serais allé à peu près n'importe où. Et puis, il y a eu un coup de foudre entre le Québec et moi, parce que je suis arrivé à un moment où le pays était dans un tel état ouais. de changement qu'en plus, pour un apprenti sociologue, c'était extraordinaire. Mais enfin, ça l'était pour n'importe qui. Il y avait une telle vitalité. Et donc, voilà, je suis allé au Québec tous les ans pendant des années et des années. Là, maintenant, j'y vais moins, c'est plus du tout le même Québec.
Mais la chanson a été centrale dans cette histoire d'amour.
Ah ben oui, parce qu'il y avait d'abord, je me flatte d'être allé entendre Robert Charlebois au Café Campus de l'Université ouais. de Montréal, dans ses débuts, quand il chantait Lindbergh, etc. Et puis, Georges Dor, qu'on n'a pas très très bien connu en France, mais qui avait deux ou trois très très belles chansons. Si tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent. À la manique Wagon. Et puis Gilles Vigneault, que j'ai rencontré, avec qui il y a eu un vraiment coup de foudre d'amitié. Et 50 ans après, Gilles, si tu nous écoutes, comme on dit, salut, salut, salut.
Ça continue l'histoire de la chanson québécoise pour vous, comme avant, un peu moins.
Non, pas comme avant, pas ouais. comme avant. Il y a des chanteurs et des chanteuses. Il y a Linda Lemay qui continue à être reçue en France. Mais je peux pas dire que la chanson québécoise apporte le renouveau, le sang neuf, la
70,
différence ouais. qu'elle a apportée pendant très, ouais, très, ouais. très longtemps quand même. Ouais. Parce que de Félix Leclerc, qui d'ailleurs a été reconnu d'abord ici avant d'être reconnu au Québec, jusque Diane Dufresne et quelques autres plus récents. Oui, quelle vitalité.
Vous vouliez être sociologue à ce moment-là, mais ouais. vous aviez déjà cette passion de la chanson. Vous alliez, par exemple, quand vous êtes rentré à Paris, vous êtes allé un peu dans les cabarets où se produisaient tous les jeunes chanteurs, encore dans les années 70.
Il n'y avait plus grand-chose dans les années 70. Le dernier ouais. cabaret, j'en parlais avec Pierre Desproges, qui en était un fan des cabarets, c'était 1973, la Galerie 55, rue de Seine, ouais. qui a fermé. Je ne l'ai connu qu'à travers les souvenirs de la génération qui m'a précédé. Et plus tard, j'en ai parlé avec beaucoup de plaisir, avec des gens que j'ai connus grâce à Bertrand Tavernier. Et puis, avec Henri Gougaud, une des voix de Radio France, une des voix de France Inter, à l'occasion de ce formidable documentaire qu'a fait Yves Geland, qui est « Il est oui. minuit, Paris s'éveille », sur Bien les sûr. Cabarets.
Mais par contre, vous avez une chance que malheureusement je n'ai pas eue. Je suis arrivé à Paris un tout petit peu trop tard. C'est que vous avez connu le quartier des Halles, encore en activité.
Je n'ai pas seulement connu, j'y ai gagné des sous, si je puis dire.
Ah bon?
Parce que quand on était étudiant, un des moyens d'avoir de l'argent, c'était d'aller décharger les camions.
Eh oui.
Ça s'est arrêté en 69, à peu près, avec la disparition des fruits et légumes. Alors, j'ai longtemps enseigné l'histoire et la sociologie de Paris à Sciences Po d'abord, puis à l'École des Mines. C'est très difficile de faire comprendre à des étudiants d'aujourd'hui ce qu'était un quartier comme ça. Au cœur d'une ville, une pareille diversité, et quelque chose qui fait que, si vous voulez, ça ne fermait jamais.
Voilà.
The city that never sleeps, qu'on chante dans New York, New York, c'est pas New York. C'était Paris du temps des Halles.
Mais ce qui m'a toujours frappé, cela dit, qui est assez curieux, il y a 1000 chansons sur Montmartre. Il y en a
peu
très,
sur
très peu très sur peu les Halles.
Et au cinéma, c'est pareil. Ouais. Il y a très peu de films qui ont été tournés soit en décor naturel, soit en studio dans les Halles. C'est étrange.
Voilà. Heureusement, il y a les frères Jacques en 1951.
Petit hôtel y'a une fille aux yeux de ciel. Tra-la-la-la-la. Dans le petit hôtel, un garçon, emmène la fille aux yeux de ciel.
Dans les halles de Paris, près de la rue Saint-Denis, il y a tout un monde qui vit et qui grouille dans la nuit. Il y a les mains pleines de sang qui portent des bœufs saignants. Il y a le bruit des gros camions qui transportent le poisson. Et il y a les trognons de choux qui roulent vers les égouts. Pyramides de carottes que l'on va lier en bottes. Des poireaux, des échalotes, des volailles qui gigotent. Des déchets pour les gargotes. Les marchands de quatre saisons, ils viennent faire leur moisson. Il y a des fruits pour tous les goûts, en cajot, en tas partout. Il y a des femmes aux yeux éteints qui traînent leurs souliers d'étain. Et toute la ribambelle, des clochards près des poubelles, se disputent dans les gamelles ou dans de l'eau de vaisselle, nagent quelques vermicelles.
Joli tableau des Halles de Paris que Philippe Meyer, d'ailleurs, vous avez repris hein, dans un
oui,
spectacle dont on en parlera tout à l'heure, Paris la Grande.
Mais c'est beau parce que il y a les Halles, puis il y a l'amour, comme ça, voilà.
Alors, vous êtes très fidèle à ce quartier, d'ailleurs, vous habitez juste à côté, hein, oui. On peut le dire. Et puis alors, vous suivez régulièrement un rituel que j'ai découvert grâce à vous à l'église Saint-Eustache.
Oui, tous les troisièmes dimanches de novembre, sur le coup de 18h30, donc voilà. À un moment où les touristes sont peu nombreux,
oui.
La confrérie de Saint-Antoine fait célébrer, sans interruption depuis 208 ans, sauf erreur, la confrérie de Saint-Antoine, dont j'ai l'honneur d'être membre, fait célébrer une messe pour les fins de l'année dans la charcuterie. Les prêtres de Saint-Antoine, qui sont des prêtres de l'oratoire, sont membres de cette confrérie. Et, particularité tout à fait remarquable, on entre en tête de la confrérie tout un tas de produits charcutiers qui seront ensuite à la disposition des fidèles dans les différentes chapelles de l'abside, avec un Beaujolais en général, puisqu'on est en novembre.
Il y a encore quelques personnages qui semblent sortis des anciennes halles, là, dans cette cérémonie.
Il y a quelques-uns qui, enfin, ont connu ça, mais vous savez, à côté des halles, il y a la Société de la Charcuterie, qui est devenue maintenant une entreprise de communication, mais tout ce qu'ils avaient fait graver comme décoration est absolument exceptionnel.
Alors, Philippe Meyer, donc, voilà, vous avez failli faire de la sociologie, puis finalement vous êtes devenu journaliste à la fin des années 70. Vous avez commencé à écrire à l'Express notamment, je crois. Et voilà, ce sont les hasards de la vie qui vous ont conduit
dans cette direction. Ce que je disais tout à l'heure, les refus et les rencontres. Refus, c'est que j'ai eu ce que j'appelle un accident de ministre, c'est-à-dire que j'ai refusé la réforme de la recherche que Madame Saunier-Saïté, ministre de Giscard, mettait en place. Et pour se venger, elle m'a coupé les crédits, puisque je faisais de la recherche, j'ai quand même fait une dizaine d'années de recherche. Et puis du coup, j'ai eu la chance d'être repéré par Revel et Jean-François Revel et d'aller à l'Express faire d'abord des critiques de livres, de sciences humaines et d'histoire, qui était mon métier, puis après...
Mais alors, qui est-ce qui vous a attiré dans cette grande maison où nous sommes aujourd'hui, où je crois que vous avez commencé en 1982?
Oui, alors ça, c'est vraiment un hasard complet, parce que c'est le Québec, là aussi, c'est les rencontres. Donc, Gilles Vigneault est l'invité du Grand Échiquier, l'invité principal. Je viens d'écrire un livre sur le Québec, qui a été bien accueilli. Gilles voudrait que j'en parle dans l'émission. À l'époque, je suis déjà à l'Express, où je m'occupe de l'audiovisuel. Chancel me dit, il ne va pas se mettre mal avec quelqu'un qui parle de l'audiovisuel. Et dans le petit entretien qu'il a avec Gilles et moi à propos de mon livre, comme on m'a entendu chanter dans la loge où je m'ennuyais en attendant l'heure du début de l'émission, Chancel dit, mais vous allez bien nous en pousser une. Et moi, j'en pousse une, alors que c'était juste une chose pour rire. C'était Le Fils-Père, une chanson sociale de Georgius, chanson féministe. Il était jeune, il s'appelait Jules, il n'avait pas encore fauté, mais un beau soir, au crépuscule, par le démon, il fut tenté, etc. Voilà. Et Chancel a trouvé que j'étais assez culotté, et du coup, comme il voulait se débarrasser d'une des 5 émissions quotidienne qu'il faisait à France Inter, Radioscopie, il m'a proposé de faire quelque chose. Et voilà, il dit, faisons quelque chose sur la télévision. J'ai fait Télescopage avec Alex Taylor, Patricia Martin, et j'ai fait pendant 7 ans.
Voilà, vous étiez timide devant le micro les premières fois?
Pas du tout, le micro ne me fait pas peur. Le micro ne
me
fait
pas
peur. Non, je le vois pas, j'ai l'impression... Je sens que c'est pas une situation normale. Nous ne nous parlons pas comme nous nous sommes parlé dans le couloir tout à l'heure et comme nous nous parlerons dans le couloir tout à l'heure. Mais c'est une situation favorable, si je puis dire. C'est un peu comme quand on est à table. Dire à table, vous conduisez d'une manière différente. Et donc, voilà, moi j'arrive là, je suis content d'être devant un micro avec quelqu'un ou avec des gens, cette personne abstraite qui s'appelle le public, à laquelle on a le sentiment qu'on doit énormément. Ça, c'était vraiment un truc... Moi, je me souviens d'avoir quand même énormément travaillé pour les émissions, mais sans avoir le sentiment que c'était pénible. Mais je veux dire, je me suis toujours demandé, ça, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est... Il y avait quelque chose, une espèce d'exigence du public. Mais pour revenir au trac, j'ai fait pas mal de théâtre depuis 1995, de manière tout à fait erratique. Pendant longtemps, j'en faisais plus, puis après j'en refaisais, dans des salles qui avaient à tout casser 600 places. La plus grande, qui était le théâtre de la ville aux Abbesses. Eh bien, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir plus le trac pour parler à 600 personnes qu'à 1,8 million, qui étaient les auditeurs de la prochaine fois, je vous le chanterai, mais c'est comme ça.
C'est comme ça, hein. Au fond, vous avez toujours travaillé à la radio, c'est le mot qui s'y prête, avec plaisir.
Ah oui, ça oui, ça oui, vraiment. Vraiment, c'est pas le sentiment de faire un métier. Enfin, si, c'est le contraire, le sentiment de faire un métier, mais pas de travailler. Voilà.
En tout cas, on va retrouver alors un petit document que j'ai ressorti sur vous, encore sur la TSF des temps historiques, puis après une petite chanson que vous avez choisie, vous nous direz pourquoi.
TSF, appareil en tout genre. La scène se passe entre le marchand et le haut-parleur. Le marchand. Oui, monsieur, j'ai ici tous les appareils, depuis les plus petits qui ratent tout le temps, jusqu'au plus grand, la yousse qu'on entend, les pingouins du pôle. Pour commencer, tenez, voilà le carillon de Châtenay, mon beau carillon de France. Tenez, le voilà, écoutez ça. Hein, quelle délicieuse poésie. Écoutez encore, le haut-parleur. Chez Pignouf et Cocotte, pour 8950 francs, ce carillon est à la portée de toutes les bourses. Retenez bien ces deux noms, Pignouf et Cocotte. Le marchand. Ah, écoutez, faut de la publicité. Parce que sans publicité, pas de sous pour la TSF. Alors, pas de Valkyrie ni de Polka des mégots. Le haut-parleur. Ici, la station radiophonique du réseau de Trou-les-Mines, Gibraltar, Shanghai, Montluçon, Dunkerque et Monte-Carlo. Vous allez entendre le concert offert par l'association des employés de la Maison La Pagaille, dans la superbe exposition de ballets, de plumeaux, de casseroles et de poils à frire. Je fais l'admiration des mères de famille. Veuillez pour commencer écouter Monsieur Clou, des grands concerts classiques, dans le morceau « C'est l'heure esquise ».
Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. alors exquise.
Vous le connaissez,
Oui, Beethoven. Je le connais, je ne l'ai pas reconnu, pendant qu'il, mais c'est, je connais Beethoven, oui, absolument.
Michel Maurice Lévy.
Vous en êtes un diffuseur, absolument, oui, un propagateur, stipendier, sûrement.
C'est quand même joliment raconté.
Oui.
Voilà. Et puis alors, la petite chanson que je voulais faire suivre, c'est Catherine Sauvage dans La Tour Eiffel.
Dites-nous c'est une chanson de Xanroff.
Voilà.
Alors évidemment, moi j'aime beaucoup tout ce qui dans la langue permet de dire quelque chose, mais par un détour, par quelque chose d'allusif, et pas de rentrer directement dans l'art. Là, avec Xanroff, qui est l'auteur entre autres du Fiacre et
bien
de
sûr.
Quelques splendeurs de ce genre, et puis la voix de Catherine Sauvage, et puis Catherine Sauvage sur scène,
hein.
C'était vraiment... quelqu'un, oui, c'est une génération, elle, Germaine Montero, quelques autres, sont vraiment des femmes que j'ai écoutées au disque et que je suis allé voir sur la scène. Pas Germaine Montero, je ne l'ai jamais vue, mais avec un plaisir formidable.
Le bon Dieu, les saints et les saintes, regarde par les taureaux du ciel l'instrument que Monsieur Eiffel vient de dresser dans nos enceintes. Il discute, le dieu des dieux, qui, vu son âge, est un peu myope, prononce, c'est un télescope. Jésus dit, papa, deviens vieux. Pierre, craignant pour sa ferrure, dit, nous sommes perdus, Seigneur, c'est une pince, mon Seigneur, pour crocheter notre serrure. Jésus, depuis sa passion, redoutant toujours la souffrance, dis ça, c'est un pal que la France élève à mon intention. C'est une grande échelle hardie, dit Saint-Michel le conquérant. C'est un flambeau, dit Saint-Laurent, qui craint toujours quelque incendie. Alors la Vierge qui sourit, dit à son tour et toute rose, c'est un mystère, quelque chose dans le genre du Saint-Esprit.
Catherine Sauvage en 1969 avec l'orchestre d'Oswald d'Andrea. Catherine Sauvage que vous avez reçue d'ailleurs dans une de vos émissions.
Oui, Philippe Meyer. Annie Croche, c'était sur Arte. Enfin, ou sur la 7, je sais plus, peut-être les deux à la fois, j'en sais rien. Il y a eu un moment où les deux existaient en même temps. Il y avait déjà plus grand monde qui s'intéressait à elle. Et j'avais eu énormément de plaisir. J'ai reçu elle, j'ai reçu Colette Mani aussi. Si vous voulez, on a tous cette expérience-là, que ce soit à la radio ou à la télévision, c'est vous invitez quelqu'un, vous y tenez beaucoup. Et quand vous dites son nom à l'équipe avec laquelle vous travaillez, vous voyez bien qu'il vous regarde avec un air de dire « bon ». Eh ben, voilà, il y a un commencement de la fin à tout. Et puis, vous voyez arriver la personne en question, et puis vous faites les essais, la balance, etc. Ouais. Et là, ceux qui vous regardaient avec l'air de dire, bon, le pauvre, il vieillit, tout à coup, ils s'arrêtent, ils regardent, ils disent, mais qui c'est? Mais comment, pourquoi est-ce qu'on connaît pas cette personne? C'est pas possible. Ça avait été le cas avec Colette Mani, avec Catherine Sauvage.
C'est un lieu de rencontre aussi, la radio, où on se noue des amitiés. Ça a commencé tôt pour vous avec Simone Signoret, par exemple.
Oui,
c'est votre première émission.
Simone Signoret écoute ma première émission, dont l'invité était le scénariste de Roman Polanski, Gérard Brache. Et elle appelle Gérard Brache, elle lui dit, tu diras au petit Meyer, elle m'avait jamais vu de sa vie, que s'il le veut, je suis cliente. Bon, on pensait bien que je me suis précipité. Par chance, ça a donné lieu aussi à une amitié qui a duré jusqu'à sa mort. Mais le fait, si vous voulez, d'être, par exemple, un auditeur régulier de, mettons au hasard, étonnez-moi Benoît, si vous dites ça à quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça crée. Il y a un truc, c'est un élément de votre identité. C'est pas toute votre identité, mais ça vous définit. On voit qu'il y a voilà le genre de musique que vous aimez. Ça veut pas dire que vous n'aimez que ce genre de musique, mais ça veut dire que vous aimez ça. Voilà, c'est... Tandis que je vois pas qu'on puisse faire la même chose avec la télévision. Si vous voulez, si vous dites à quelqu'un, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode de Game of Thrones, je suis pas
ça
sûr
crée
que
pas bon, des liens.
Par ailleurs, j'ai pas du tout aimé le dernier épisode de Game of Thrones. Je trouve qu'ils se foutent de nous.
Puisque vous êtes très versé dans les séries, d'après ce que j'ai lu dans le Figaro.
J'aime beaucoup les séries. Ouais, j'aime beaucoup les séries. Je dois dire. Oui, c'est terrible. C'est addictif.
Alors la deuxième, peut-être, on peut dire grande émission de radio. que vous avez incarné, Philippe Meyer, ça a été un peu plus tard, en 1989, évidemment, toutes ces chroniques matinales sur France Inter. Hein.
Oui, c'est l'idée qui est venue comment, ça? C'est Levaille qui est ça. Alors, c'est, je peux pas dire que j'ai eu l'idée, vraiment, parce que Levaille, que je connaissais pas, est nommé patron de l'information, il m'invite à déjeuner dans un restaurant pas terrible, et il me dit, voilà, j'ai l'intention de te confier une chronique le matin. Je dis, non, merci, j'ai pas envie de travailler le matin, puis je sais pas travailler tous les jours, c'est pas possible,
ah oui,
c'est trop
de
travail.
Se lever tôt, c'est pénible,
bon.
Hein.
Ouais. En plus, se lever tôt, c'est une maladie. Bah, quelques temps après, il me réinvite dans un meilleur restaurant et il me dit, bon, bah, ce que je sais pas, c'est si je vais la mettre à 8h moins le quart ou à 8h15. Je dis, mais non, je t'ai dit non, merci beaucoup. Puis la troisième fois, il m'a invité dans un restaurant qui avait une étoile. Et là, il m'a dit, bah, c'est pas de souci, ça sera à 8h moins le quart. Et là, j'ai accepté. Je sais encore pas pourquoi, mais du coup, pendant 10 ans, j'ai fait cette chronique.
Voilà. Vous pouvez nous faire les heureux habitants de...
Ah, bah, il y avait heureux habitants de l'Aveyron et des autres départements français. Et puis, le gimmick de fin. Qui veut rien dire, mais qui a marqué les esprits au point qu'on me le cite encore. J'ai même rencontré un président de la République en exercice qui m'a dit « Alors, Philippe Meyer, nous vivons une époque moderne ?»
Voilà, c'est ça. Mais c'est très important, vous le dites dans les émissions de radio, c'est la répétition, les phrases clés comme ça qu'on ressort d'une semaine à l'autre.
Tâchez de l'oublier, vous allez voir ce que vos auditeurs vont vous écrire. Ça, c'est pas pensable. Quel que soit le gimmick, d'ailleurs, qu'il soit très court, à demain si vous le voulez bien, ou bien très long, genre « Aquilez-nous de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous, une émission de France Inter présentée par personne, du cher et regretté José Arthur. »
Voilà, et vous avez alors prolongé ensuite l'exercice matinal avec ces entretiens, enfin ces portraits plutôt de personnages politiques importants, parfois des choses assez rudes, hein. On pense à Georges Marchais, à Philippe de Villiers, dans deux genres très différents, parfois beaucoup plus cordiales.
Oui, il y a eu, enfin ça a duré 10 ans, Marchais était très fâché évidemment parce que j'avais dit...
Vous avez parlé de son petit séjour en Allemagne, c'est
oui, ça, j'ai dit, monsieur Marchais est du signe des Gémeaux, mais les Gémeaux c'est des gens distraits, ça doit être pour ça qu'il était ouvrier volontaire chez Messerschmitt.
Bon, enfin, voilà, c'est là que vous avez pris le goût, en tout cas, des portraits politiques que vous avez prolongés également dans des écrits ultérieurs.
Ouais. Je remarque au passage que quand même le communisme a beaucoup changé, parce que je raconte cette histoire avec Marchais dans mon spectacle, et le premier journal à avoir fait un article extrêmement positif sur mon spectacle, c'est l'Humanité, en citant ce passage. Donc c'est vous dire que...
Je l'ai lu,
quand même,
effectivement. Vous avez, Philippe Meyer, dans les petits choix que vous m'avez proposés, qui ont été, je crois, douloureux, parce
que...
Là,
vous parlez pas.
C'est comme moi, vous avez tellement de choses que...
Il est pas sûr que je ne vous haïsse pas encore.
Bon, finalement, faut bien, c'est ça la radio aussi, c'est de choisir ce qu'on va pas passer, hein.
Ah oui, mais c'est horrible. C'est vraiment, là, c'est terrible, parce que tout à coup, là, on vous dit, bon, mais alors, il faut quand même qu'il y ait de la vérité. Bon, par exemple, moi, j'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. J'ai toujours aimé les langues étrangères, même quand je les comprenais pas. Il y avait un chanteur, Vertinsky, un chanteur russe des années 20, avec une voix magnifique. Il y avait Roberto Murolo qui chantait des ballades napolitaines, etc. On va dire, non, ça, je peux pas. Parce que ça
n'écoutera pas aujourd'hui.
Il y avait un tas de disques à côté de moi que je ne...
Oui, mais vous avez eu la bonne idée de me proposer Jean Constantin, et moi je suis toujours content quand je peux passer Jean Constantin. Je sais pas si vous l'avez connu, lui, parce qu'il est mort assez jeune aussi.
Non, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai écouté beaucoup. On était une bande de cousins qui passions nos vacances tout près les uns des autres, et on écoutait des trucs, on écoutait Bobby Lapointe, on écoutait Jean Constantin, et nos parents, enfin la plupart de nos parents, pas tous, mais nous regardaient, et nous disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces dégénérés?
Je préfère nettement le pinard. D'abord le lait, c'est blanc, c'est laid, ça se garde qu'au frais, ça fait que ça fait des frais, tandis que le vin, c'est du satin, de raisin, surtout client. Le vin que je vous vends, mon beau, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mon beau, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mon beau, je l'ai, je l'ai, je l'ai dans ma cave. À la rigueur, je boirais du lait. Si de raisin se nourrissait toutes les vaches du beau, je l'ai. Si Lolo Brigida me donnait la tétée.
Fils de Furax.
795e épisode. Allô? Allô, monsieur Black? Ici le préfet.
Ah, ben, je suis bien content de vous avoir au téléphone, monsieur le préfet. Figurez-vous qu'hier, j'avais mis ma voiture dans la zone.
Mais ça n'est pas de votre voiture qu'il s'agit, monsieur Black. Je veux savoir où vous en êtes.
Ben justement, je vous raconte avec ma voiture.
Mais votre enquête, monsieur Black, votre enquête sur le vol du bourdon et la disparition du convoi.
Mon enquête? Ça va pas mal, merci.
Bon, alors, où en êtes-vous?
Où j'en suis?
Mais oui, où en êtes-vous?
Au même point, monsieur le préfet.
Au même point? Quel point?
Le point mort, ça piétine.
Ah oui, monsieur Black, ça piétine. Ça piétine, ça piétine.
Et d'une extravagance à l'autre, on est passé de Jean Constantin en 1963, le Beaujolais, à Signé Furax en 1959, le mendiant des Tuileries, extrait de l'épisode Le Fils de Furax, Philippe Meyer.
Furax et Jean Constantin, le loufoque.
Le loufoque,
c'est voilà, exactement cet univers. Furax, c'est une espèce de fantomas loufoque. Ouais. Pierre Bac et Francis Blanche. Et puis Jean Constantin, c'est un loufoque. Un loufoque, c'est-à-dire aussi quelqu'un, d'ailleurs comme Pierre Bac et d'ailleurs comme Francis Blanche, tout à fait capable de poésie et d'une poésie
ça,
tout à fait
exactement.
Fine et touchante.
Oui, quand on regarde d'ailleurs l'ensemble des chansons de Francis ouais. Blanche, par exemple, oui. On voit qu'il avait tous les ouais. talents. Ouais. Vous avez connu aussi peut-être Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, le metteur en
de Chassis-Poulet. Il s'appelait pas du tout Chassis-Poulet, il avait inventé ça. Ça me fait beaucoup rire parce que il s'appelait Arnaud de son nom de famille et Pierre de son prénom. Mais il avait ajouté de Chassis-Poulet, non pas du tout par prétention, me dit-on. Moi, je l'ai pas connu, mais ceux qui l'ont connu me le disent. Mais parce que voilà, il trouvait que ça terminait bien, justement, par une autre note de loufoquerie, ce nom que tout le monde a retenu, évidemment, tellement il était un peu bizarre. Ça terminait bien par une note de loufoquerie, le feuilleton de Pierre Dac et Francis Blanche.
Mais alors, tout ça nous rappelle que la radio, et notamment d'ailleurs la radio nationale, Radio France ou la RTF de l'époque, ont longtemps été des lieux aussi de création d'un genre, d'un art radiophonique. Aujourd'hui, on fait des émissions, c'est très bien, mais finalement, on fait des émissions. À l'époque, on fait encore un peu, mais on faisait des feuilletons, c'était des poètes, des compositeurs qui dirigeaient la radio d'une certaine façon comme un laboratoire de création sonore.
Oui, et avec des personnalité extrêmement forte. Je pense à quelqu'un comme Jean Tardieu, qui a beaucoup écrit pour la radio et qui a beaucoup dirigé aussi. Et je pense à tous ces gens qui avaient aussi le souci de laisser les autres faire. Quand ils avaient l'impression d'avoir en face d'eux quelqu'un qui avait une idée, une conviction, ils se disaient, bon, bah, allons-y, si ça marche pas, bah, ça marche pas, on peut toujours l'arrêter, c'est pas très compliqué. Mais ça marche, l'idée que ça marche, c'était pas l'idée de la mesure d'audience, cette espèce de truc immédiat qui nous fait vivre encore un peu plus dans un univers énervé. Ouais. Et malheureusement, la maladie des audiences a gagné toutes les radios, y compris celles qui n'en ont pas besoin pour vivre. Voilà, il faut espérer que sous la pression du public, on reviendra à des idées plus désintéressées. Et on peut déjà le faire, en tout cas, à travers une chose. Moi, j'y suis abonné et je le recommande à tout le monde. Ce sont les Nuits de France Culture. Parce que les Nuits de France Culture vont puiser dans les archives de la radio, les émissions les plus diverses. Et on retrouve cet univers dont vous parlez.
Vous avez eu votre moment, on peut dire aussi, de création radiophonique un peu loufoque, encore 10 ans après France Inter, c'était Conciliabule.
Oui, Conciliabule, c'était un truc bizarre que j'ai fait, une brève émission que j'ai faite entre deux émissions, entre le moment où j'ai démissionné de la rédaction de France Inter pour désaccord avec le comportement de son directeur, et le moment où j'ai fait La Prochaine Fois, je vous le chanterai. Et Conciliabule était un truc dans lequel je m'amusais notamment à reprendre une initiative de l'entre-deux-guerres où il y avait un groupe, on n'a jamais su très précisément qui c'était, mais qui proposait des définitions absurdes, mais en même temps cohérente, si je puis dire, de mots. Par exemple, je demandais aux auditeurs de proposer une autre définition de crinoline. Et alors, je me souviens, il y avait un auditeur qui avait répondu « Crinoline, c'est ma cousine !» Et voilà, il y avait duodénum, un chant religieux d'une... Voilà. Entonner le duodénum, etc.
Bon, on va rechercher dans les archives quelques
définitions superbes. Ouais.
Et puis aussi, alors voilà, l'envie de chanter qui s'était manifestée, vous nous l'avez dit, à l'origine de votre carrière radiophonique, eh bien, elle vous a rattrapé à de nombreuses reprises dans des émissions et aussi sur scène. On va en parler tout de suite, mais on va vous écouter d'abord dans une chanson que j'adore, La Joconde, de Paul Brafort, extrait de votre spectacle Paris la Grande, Philippe Meyer, c'était en 2001.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connu par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard m'a cru Gironde. On sait que Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai que je suis pas immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai que je suis pas immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mauvais on m'inonde. Touriste après touriste abonde en d'interminables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde. Tu vois, la Joconde. Non è questa la Mona Lisa che non hanno rubata a questi francesi? Ach, das ist die Mona Lisa. Das Buch sagt, sein Lächeln ist hübsch. Stimmt. Aber enigmatisch. Stimmt. Esa es la Mona Lisa. Guapa. Pero hay muchos especialistas que dicen que no es una mujer. Is this the fucking Mona Lisa? Are you kidding me? You mean such a small painting, the most expensive in the fucking world? Venez voir le sourire de la Joconde. C'est le plus cher du monde. La Joconde. C'est moi qui suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
La Joconde avec Pascal Le Pennec et Jean-Pierre Gesbert.
Le premier à l'accordéon, le deuxième au piano.
Et vous-même, donc Philippe Meyer, dans cette chanson que j'aime beaucoup. Un monsieur que j'avais reçu ici même, qui s'appelait Paul Brafort, qui nous a quitté il n'y a pas très très longtemps, qui était un oulipien de haut vol. Hein.
Camarade de Boris Vian à l'école centrale.
Voilà.
Ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et producteur d'émissions de radio ici et chanteur dans les cabarets dont nous parlions tout
et
à l'heure.
Proche de Raymond Queneau aussi, je crois.
Proche de Raymond Queneau, quelqu'un dont j'ai vu un récital à l'âge de 83 ans. avec des petits-enfants qui étaient extraordinairement touchants parce qu'il passait son temps à faire tomber ses partitions. Et les gosses se précipitaient, les ramassaient, les lui redonnaient, etc. C'était la bibliothèque de l'Arsenal. C'est inoubliable. Il habitait tout près, rue Charles Quint.
Voilà, Charles V. Après vos succès radiophoniques, vous avez eu envie de monter sur scène. Vous avez dit, même si ça vous donne plus le trac, pour une causerie, puis pour un spectacle chanté, Paris la Grande. Mais ça, c'était quand même une étape supplémentaire de se produire en chanson pendant plus d'une heure devant
un
public.
Là aussi, c'est des rencontres. Je vous raconte le truc. Je fais causerie. Le directeur du théâtre de la ville, Gérard Violette, me dit littéralement, il me dit, écoutez, c'est un spectacle d'intérêt public. Je trouve 8 jours pour le caser. Il le case 8 jours et je suis en train de répéter. Et puis, il y a une panne d'électricité. Et je suis là et ben, je fais ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand je m'ennuie, quand j'ai rien à faire, je chante. Et je chante une chanson sur Paris, la balade de Paris. Ça naît un beau soir sur la butte, ça vient, on ne sait trop comment. Et puis, je termine la chanson, puis j'enchaîne avec une autre. Et puis avec une troisième. Et tout à coup, du fond de la salle, dans le noir le plus complet, il y a une voix qui dit « Mais pourquoi vous en faites pas un spectacle ?» Et c'est le secrétaire général du théâtre. Et je lui dis en rigolant « Mais si Gérard Violette en veut, je le fais. » Et Gérard Violette en veut. C'est comme ça, c'est patron de théâtre, c'est comme les patrons de la radio. C'est aujourd'hui, quand je pense aux gens qui ont l'âge que j'avais quand j'ai commencé la radio ou quand j'ai commencé à chanter, je me dis « Mon Dieu, mais les malheureux, toutes les choses qu'ils doivent prouver, montrer, faire. » Violette dit « Ben, on prend le risque. » Je veux dire, je chantais un peu sur scène dans mon spectacle, mon premier spectacle, mais là j'ai chanté, je crois, je sais plus 32 ou 34 chansons, des textes et des chansons sur Paris,
d'ailleurs,
et des trucs. Et on a fait, alors ça c'est un truc qu'il faut savoir et auquel vous serez sensible, mais j'ai fait une tournée internationale, par exemple au Chili. Au Chili, ça va vous paraître étrange, mais on ne connaît pas mes talents de chanteur. Allez savoir pourquoi.
Ça, c'est incroyable.
Eh bien, c'est une injustice que je vous concède, mais vous mettez une affiche où vous mettez chanson Paris. Vous pouvez mettre Philippe Meyer en dessous, les gens viennent quand même. Ouais. Je veux dire, ça remplit les salles. Ça remplit des salles de 500 personnes.
Aujourd'hui encore.
C'était l'idée que... Alors évidemment, les gens savent pas que le Paris dont on parle dans ces chansons est un astre mort. Mais ils viennent et c'est vraiment... Ça impressionne.
Alors, Philippe Meyer, Paris la Grande, spectacle musical, et puis ces dernières années aussi d'autres cabarets, alors que vous avez monté avec la Comédie Française.
Ouais. Voilà. Ça, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, et c'est Muriel Mayette qui m'a permis de la réaliser. On a d'abord fait des émissions de radio, je pense qu'on a dû faire presque une vingtaine d'émissions de radio, donc des chansons autour d'un thème, interprétées par des comédiens de la troupe, et un beau jour, toujours Muriel Mayette, me dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas sur scène ?» Oui, d'accord, bon, et dans le studio au théâtre de la Comédie Française, puis après au théâtre éphémère, j'ai fait, et c'était vraiment un plaisir parce que j'ai un faible particulièrement accentué pour les comédiens chanteurs.
Oui.
Enfin, pour ceux qui ont cette double, Catherine Sauvage, dont on parlait tout à l'heure, Jean Constantin,
Madeleine Renaud,
on ne le sait pas assez, Aznavour. Oui. Et en l'occurrence, là, vraiment, j'ai demandé, si on croit, comme c'est, je pense, le cas de presque tout le monde, qu'une chanson, c'est une petite pièce de théâtre, eh bien, les comédiens, c'est vraiment... Après, mon travail, ça consistait essentiellement à bien distribuer, c'est-à-dire à trouver la chanson qui allait avec le tempérament et le type de voix, parce que il y a des voix, si vous voulez, il y a des voix comme Yvette Guilbert qui ont un octave, mais qui sont des diseurs ou des diseuses formidables, et puis il y a des voix qui sont des voix qui pourraient très bien se produire sur une scène lyrique.
C'est là, je crois que d'ailleurs vous avez rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est venu dans cette émission, une jeune artiste déjà très lancé ces derniers temps, qui a joué Bécassine au cinéma et Fric Frac au théâtre, et qui donne son tour de chant et qui s'appelle Emmeline Bayard.
Emmeline Bayard, je l'ai rencontrée au conservatoire grâce à Benoît Carré, qui est le metteur en scène de mon spectacle actuel, qui était un de ses camarades de promotion, comme d'ailleurs Pascal Sangla, qui était le pianiste de mes aventures avec la Comédie Française. Et Emmeline avait, dans la carte blanche que le conservatoire donnait à ses élèves, prévu de faire un spectacle de chansons françaises, chansons grosso modo début de siècle.
Oui,
et Benoît Carré, que je connaissais parce que j'avais fait une mise en scène d'une pièce de Marcel Aimé au studio théâtre d'Asnières. Et Benoît Carré me dit « Il faut absolument que tu ailles l'entendre, elle est incroyable ». Et je dois dire que oui, elle est incroyable. Elle a un tempérament, elle a un plaisir de faire ce qu'elle fait, elle a un tempérament. Et puis, bon, c'est une camarade par-dessus le marché avec avec qui j'ai énormément de plaisir à passer du temps, parce que c'est quelqu'un qui est aussi intéressante dans la vie que sur la scène.
Je précise qu'elle sera avec nous le 21 mai, d'ailleurs, pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît, au Studio 104. Mais on va faire encore une petite incursion vers une question importante, c'est celle des virgules et autres génériques.
Così deserta la città, io non me la ricordo più. Guardando un film bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia, e i sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è sempre un treno che va.
Toto Cutugno. Ça vous plaît?
Écoutez, les chansons dans une langue étrangère ont un avantage. Vous connaissez le célèbre texte de Marcel Proust, Ne méprisez pas la mauvaise musique. Eh bien, il y a des chansons qui sont des chansons on, si je puis dire. Quand elles sont chantées dans une autre langue, on oublie. Regardez, par exemple, il y a eu une troupe, qui avait donné un spectacle en français des chansons des Beatles, en traduisant les paroles des chansons des Beatles, qui sont d'une pauvreté absolument insigne, mais chantées en anglais. Ça passe, on voit pas la pauvreté. Là, je dirais, c'est
pas un des plus grands textes de l'histoire de la chanson. Non, c'est
et Toto Cutugno, il en rajoute dans sa voix comme ça, la città est vuota, etc. Mais c'est un plaisir. Il n'y a pas de plaisir qu'il faille mépriser, sauf ceux qu'on arrache contre la volonté de ceux qui vous les donnent.
Voilà. En tout cas, c'était là l'une des virgules musicales.
C'est Perrine Mainguy, la réalisatrice de l'émission, qui avait proposé et trouvé cette émission. Et Perrine qui continue à être active dans cette voie de maison. Qui est quelqu'un. Perrine, il y a une définition de Perrine Mainguy que j'adore, que j'ai trouvé moi-même, qui est, si vous avez un problème, elle a déjà la solution.
C'est beau, j'espère qu'elle nous écoute. Ça, c'était donc évidemment la grande émission musicale que vous avez donnée il n'y a pas tellement longtemps sur France Inter. La prochaine fois, je vous le chanterai. Alors, avec toute une série d'ailleurs de génériques, il y avait le TikTok Choc de Couperin, il y avait...
Interprété par Xifra,
faut le préciser. Béret, beurre, cornichon. C'est quoi ça?
Absolument. C'était l'orchestre d'accordéon.
Etc, etc. Bon, j'imagine que cette émission, ça a été aussi un moment de...
C'est un partage formidable, quand même. Un partage formidable, parce que on dit, c'est une chanson, et les paroles des feuilles mortes disent c'est une chanson qui nous ressemble. Mais c'est aussi une chanson qui nous rassemble.
Oui, c'est ça.
C'est une chanson qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous divise aussi. On peut se fâcher pour des chansons. Moi, au lycée, je me suis fâché. Plusieurs d'entre nous se sont fâchés avec un autre parce que il aimait Sheila. Et que nous, alors, avec l'arrogance des jeunes gens qui avaient fait du latin et du grec, on le disait, mais comment on aime Sheila? Mais voilà, bon. Il n'y a rien qui rentre plus facilement dans votre vie qu'une chanson et qui reste aussi longtemps. C'est vrai aussi pour certains airs d'opéra. Mais, parce que aussi, il y a la chanson et le timbre auquel elle est associée, qui est quelque chose pour moi, je pourrais en citer 50, mais je vais vous parler des timbres étrangers, Vertinsky dont j'ai parlé tout à l'heure, mais Paco Ibáñez, mais Amalia Rodriguez, mais Mercedes Sosa, mais Atahualpa Yupanqui, mais Edmundo Rivero, tout ça sont des timbres, je les ai dans l'oreille, si je pouvais les reproduire, je...
Et pour Sheila, vous avez changé d'avis?
Non. Mais je me fâcherai pas avec quelqu'un pour cela.
Mais en tout cas, Philippe Meyer, dans l'idée aussi, c'était que, voilà, on peut évoquer tous les sujets à travers la chanson. La chanson aborde absolument tous les sujets de la vie, de l'actualité.
Depuis l'amour jusqu'aux impôts, tout y est.
Voilà. Et c'était bien ça le principe de la prochaine fois. Je vous le chanterai. Vous avez cité tout à l'heure Marcel Aimé.
Oui.
Parce que, voilà, c'est évidemment un merveilleux écrivain, mais aussi l'auteur de quelques chansons.
Oui.
Ce spectacle sur Marcel Aimé, c'était quoi exactement?
C'était une pièce de Marcel Aimé, Les Maxibules, qui n'avait pas été jouée depuis l'époque de sa création, où elle avait eu un très bon succès. Elle avait été jouée plus de 350 fois. C'est une pièce surréaliste, mais surréaliste à la version Marcel Aimé, c'est surréaliste à la française, surréaliste sans champagne, sans méta politique, sans méta rien du tout. Et ça se passe dans le monde entier, mais il a interdit qu'il y ait le moindre décor. Et il y a un personnage central qui doit être absolument habillé en hussard et qui joue 48 rôles différents à l'intérieur de la pièce. Et Marcel Aimé est aussi, pour une opérette qui n'a pas eu de succès, qui s'appelait Patron, qui était représenté au théâtre Sarah Bernard, là où est aujourd'hui le théâtre de la ville au Châtelet. Il y avait Zizi Jeanmaire, il y avait Roland Petit, et c'est Guy Béard qui a fait la musique. Et dans cette opérette, il y a une chanson, je crois que je n'ai monté mon spectacle sur Paris que pour pouvoir la chanter.
J'adore, c'est
La Chabraque.
Une blonde malabar, les yeux durs, je peux pas mieux dire la découpure. En plus de cet accent chabraque qu'avait Marika, la Polaque, elle logeait rue du Pont aux Choux sous les toits, avec un chien loup qui lui avait léché les mains, un soir, dans la rue Portefoin. La Chabraque, la Chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque, la Chabraque, la Chabraque, qu'avait un chien loup, un chien fou. Des années, elle est restée sage, elle supportait pas le badinage, ni des paumés, ni des richards. Je l'ai vu sonner à coups de riflard un grossium du carreau du temple qu'en pinçait pour ses 20 printemples. Et puis, au square, elle s'est toquée d'un minable qui la reluquait. La Chabraque, la Chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque. La Chabraque, la Chabraque, qu'avait un chien loup, un chien fou. Il est venu rue du Pont aux Choux, ça pouvait pas plaire au chien loup. Tout de suite il a montré les dents, et quand il a vu le soupirant serré dans ses bras, la Chabraque, il lui a sauté au colbac. Tellement la bête a mordu fort, v'là le minable saigné à mort. La Chabraque, la Chabraque, qu'avait de la défense et de l'attaque. La Chabraque, la Chabraque, avait un chien loup, un chien fou. Deux hirondelles qui pédalaient le long du boulevard Beaumarchais. Sur le coup de 3 heures du matin, on croisait une fille et un chien. Une grande bringue qui avait l'air pressée. Le chien la suivait tête baissée. Dans la brume, ils ont disparu. Et la Chabraque, on l'a plus revue. Et l'attaque, la Chabraque. Qu'avait un chien un chien fou.
Et toujours dans le spectacle qui existe également en CD, Paris la Grande,
au
Champ
du Monde.
Meyer. Au Champ du Monde, voilà, c'est une vraie fidélité, je vois. La Chabraque de Marcel Aimé et Guy Béard, que vous aviez enregistré, Philippe Meyer. Aujourd'hui, vous êtes donc...
Extrait d'une opérette mise en scène par Claude Régis.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Ça, Patron, Marcel Aimé, mis en scène par Claude Régis.
Zizi Jeanmaire, mis en scène par Claude Régis.
Oui, c'est très amusant à retrouver. En tout cas, voilà, bah, aujourd'hui, vous êtes de retour, donc on l'a dit, sur scène au Lucernaire pour évoquer votre amour de la radio, mais avec aussi des chansons. Hein.
Je chante absolument. Je chante accompagné par un accordéoniste, Jean-Claude Loda, à qui j'ai fait déjà beaucoup de choses, mais il est incroyable parce que ce principe d'être comédien, enfin de jouer, d'être acteur et chanteur, fait que je chante jamais de la même manière. Et lui, s'il était un musicien un peu tyrannique, ou il m'obligerait, ou il ne serait par sa façon de jouer à rester. Lui, au contraire, il est complètement, il est avec moi. Il écoute, il voit que je vais partir vers quelque chose de plutôt parler, chanter, donc hop, il réduit le volume de son accordéon. Il pense qu'au contraire, là, je vais donner de la voix, donc il est derrière. C'est vraiment, je dois dire que les gens se rendent pas compte, mais c'est exceptionnel.
Et puis vous êtes mis en scène comme ça aussi.
Et je suis mis en scène par Benoît Carré, qui m'a cassé les pieds avec, je dois dire, une utilité assez considérable, parce que une histoire comme ça, il faut que ce soit un conte. Ouais. Et donc, il faut que ce soit construit, il faut qu'il y ait un certain rythme, il faut qu'il y ait des plages, il faut qu'il y ait des choses. Vous ne vous rendez pas compte quand vous êtes dedans. Benoît, qui est comédien lui-même, il s'en est rendu compte et il m'a fait travailler avec beaucoup d'obstination parce que je suis pas le type le plus docile du monde.
Alors on a écouté tout à l'heure des petits documents préhistoriques, on pourrait dire, qui pourraient donner l'impression que la radio est quelque chose de forcément un peu démodé, qui a précédé la télévision, etc. En fait, pas du tout. On a l'impression que la radio, au contraire, est un genre qui est très vivant malgré tout encore aujourd'hui. Peut-être même plus encore que la télévision. Enfin, c'est peut-être mon sentiment, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je le pense en tout cas, puisque moi, je suis passé maintenant dans l'univers du podcast. Je fais des connaissances et des rencontres dont je me dis que, nom d'un chien, quand même, c'est étonnant de voir à quel point le son pur, alors là, à travers l'ordinateur et non plus à travers la voix hertzienne, mais intéresse, inspire et donne des idées de programmes à des gens de la génération de mes petits-enfants.
Voilà, et c'est ça qui est merveilleux et qui nous rassemble ce matin. Et on va se quitter, Philippe, avec une chanson merveilleuse d'Amalia Rodriguez, La maison sur le port. Alors là, vous avez choisi la version française.
Oui, j'ai choisi exprès la version française, C'est une voix absolument extraordinaire, c'est un répertoire. Elle a souffert un peu d'une réputation tout à fait exagérée d'avoir été trop proche du dictateur Salazar, mais c'est une voix, aujourd'hui, maintenant, elle est canonisée au Portugal, non sans raison. Juste un mot pour dire que le fado à l'origine, là, ce qu'on va entendre là, c'est pas tout à fait un fado, mais c'était chanté par des hommes, et il y a un disque qui a été produit ici, à Radio France, à une soirée où il y avait les musiques du monde à la fin, qui est Fernando Machado Soares, Fernando Machado Soares, vous pouvez l'écouter sur Internet, c'est une voix qui vous sortira les tripes et les larmes du corps, et c'est un répertoire absolument magnifique, mais comme il fallait choisir, Amalia Rodriguez, La maison sur le port.
Merci Philippe Meyer, et à bientôt.
La semaine prochaine, je reviens.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y voir et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Se sont revers et depuis les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur? Les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenue une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. Je vous dis que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. pas sur mes 20 ans que je pleure. Bien souvent avec les filles j'ai pleuré, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, je l'ai dit à Maria et aux filles de la vallon, boire pour oublier un petit mar, puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port.
La maison sur le port par Amalia Rodriguez, un choix de mon invité Philippe Meyer que vous pouvez donc retrouver au théâtre Lucernaire jusqu'au 1er juin, du jeudi au samedi à 21h et puis encore le dimanche à 19h pendant tout le mois de mai. Donc ma radio Histoire amoureuse de Philippe Meyer.
Un extrait du ballet d'Ascanio, opéra de Camille Saint-Saëns. Alors une vraie rareté, cet opéra qui vient enfin de paraître pour la première fois en disque en intégralité. Ascanio, opéra de 1890, enregistré avec le Grand Théâtre de Genève sous la direction de Guillaume Tournière. Voilà un disque que je vous recommande beaucoup, qui est paru aux éditions B Records, ou B Records si vous préférez.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et encore deux ou trois petites choses rares avant de se quitter. Et d'abord, ce duo de Monsieur Boieldieu. On reste dans l'opéra français avec donc cet extrait de Ma tante Aurore.
Sous cette grossière enveloppe, mon cœur me donne palpiter.
vérité.
En vérité.
En vérité.
À perdre haleine.
Et du regard.
Du vent au cœur.
Et du tourment.
Et de la paix.
Et du plaisir.
Et du bonheur.
Des regards
séducteurs.
Des aveux enchanteurs.
Des aveux enchanteurs.
En vérité, c'est incroyable.
Bien obligé.
C'est vraiment. Bonheur. Bonheur, c'est incroyable. C'est vraiment. Bonheur.
C'est fort croyable, assurément.
Il semble que voilà, nous ayons été interrompus dans ce petit morceau de Boieldieu. C'est dommage, c'était bien joli. C'était Ma tante Aurore, un opéra comique de 1803 avec cet art merveilleux donc du bavardage en musique. Vous avez entendu, on le repassera en entier la prochaine fois. Vous avez entendu Jeannine Collard, Pierre Germain sous la direction de Marcel Courreau avec l'orchestre de chambre de la radio diffusion française. Voilà un extrait d'opéra comique et on va se quitter maintenant avec une chanson de Reventura et ses collégiens et une vraie réflexion au fond sur le sens de l'existence.
Des histoires de vicomte.
Quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. Ah, quand un cul-de-jatte rencontre un autre cul-de-jatte, qu'est-ce qu'ils débattent? Des histoires de cul-de-jatte.
Chacun sur terre se fout.
En fin de compte, ce qui compte surtout, c'est nous.
Chacun sur terre se fout, se fout des petites misères de son voisin du dessous.
Quand une bigote rencontre une autre bigote, qu'est-ce qu'elle chuchote? Des histoires de bigotes. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui les charme? Des histoires de gendarmes.
Ah, quand une vieille tante rencontre une autre vieille tante, qu'est-ce qui les tente? Des histoires de petites tantes.
Chacun sur terre se fout, se fout des petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout.
Quand je vois qu'une égonde, nous ne parlons de rien au monde que d'elle et de nous deux.
Chacun sur terre se fout, se fout des petites misères de son voisin du dessous.
Quand un vicomte rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'il discute? Des histoires de sardines. Quand une belote rencontre un autre fromage, qu'est-ce qu'il débite? Des histoires de pendules.
Octobre 1935, c'était l'orchestre de Reventura dans cette très belle chanson de Mireille et Jean Nohain, spéciale dédicace à mon ami Sampé qui me l'a fait découvrir un jour.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Alexandre Billard avec Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado.
À réécouter sur francemusique.fr.